Parole vagabonde.
Parole vagabonde.
Parole vagabonde.
Vous écoutez Parole vagabonde.
Une émission qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.
Proposée par La Cloche Bretagne sur
R22. Bonjour à tous, bienvenue sur R22, vous écoutez Parole Vagabonde. Aujourd'hui c'est une émission qui s'intitule « Cassons les murs, fabriquons des ponts » en lien avec la journée de l'exil. Ce samedi 17 juin, l'équipe de Parole Vagabonde est à la basse-cour pour les journées de l'exil. Deux jours sous le signe du partage, de la rencontre et de la création de liens sociaux autour des cultures et savoir-faire venus d'ailleurs. Au programme de ces journées, déambulation musicale au jardin, improvisation musicale, atelier où l'on se passe de la farine ou le dé à coudre pour échanger des savoir-faire, exposition photographique, atelier de langue, fresques des diversités, contes et jeux, atelier de partage d'expériences et témoignages d'inclusion. Avec l'association La Cloche, nous proposons un atelier d'expression libre où chacun, chacune peut écrire, prendre la parole avec ses mots, dans sa langue ou dans une autre. Bienvenue dans cette émission pour découvrir ce qui a été créé. Alors, nous avons monté un atelier d'expression autour d'images et nous avons plusieurs personnes autour de la table qui ont écrit des textes en rapport avec des images qu'on leur a offert sur la table. Je vais passer le micro à la première personne qui est motivée à lire son texte. Allez.
Donc, Géraldine. Alors, nous avancions les yeux fermés. Tout semblait nuit et obscurité. Puis, peu à peu, lumière et couleur nous sont apparues à nouveau. Elles nous ont traversés, enveloppés, nous sommes devenus omnicolores, comme bleu et vert font glaze en armor. Juste pour préciser, en fait, glaze, c'est un mot breton, moi je suis née en Bretagne, qui désigne le mélange de la couleur du bleu de la mer et du vert de la nature, en fait. C'est... voilà, une couleur qui n'existe pas en français. Et on dit glaze, c'est G-L-A-Z. Voilà, juste pour préciser, moi, j'ai plus beaucoup de mots que je connaisse en breton. Mais voilà, je voulais mettre celui-là, par exemple. Merci. Merci à vous.
Bonjour, donc moi, c'est Frédéric. Je suis bretonne aussi, comme Géraldine. Et en termes de vocabulaire, c'est vrai que je suis un petit peu limitée, donc je pourrais certainement pas employer du vocabulaire adapté ou adéquat. Voilà. Mais il y a des chiens bretons qui se font entendre autour de moi. Donc et alors moi, ça m'a inspirée. J'avais deux images très contrastées, toutes les deux. Et donc je me suis lancée sans trop réfléchir, comme les mots me venaient. Alors, voilà ce que ça donne. L'eau et les rêves, matière onctueuse, orageuse, effervescence de ton esprit, où se déploie un monde, souterrain, dans les profondeurs de la mer, tourbillon et ressac contre les rochers, perdu et englouti, sont les âmes, vagues à l'âme et l'âme de fond, tes espoirs de vie meilleure se sont éteints, quand sur d'autres continents, une vie domestique s'anime, pompons de fleurs et tissus en taffetas, petites mains précieuses gantées de blanc prennent soin de ton arbuste. Voilà.
Qui veut prendre? Vas-y, tu peux te présenter.
Je m'appelle Chirif. Mais moi, je vais présenter un bambara. Je comprends français, mais moi, je vais présenter au Limazé en bambara. Neni imagi choisi parce que imagi jarani parce que couleur chamambala couleur rouge marron chamambala ngai imagi flana fene imagi jarani parce que patoni duna fene re vajim ke anu vajib kelengi nia de difficulté mbarono ne re bodo en plus imagi alabana parce que mobet sera imagi roi et chedobiki bla jila orola pas, ça m'a impressionné. Imagine qu'on est Djarané, fin de Kumanara. C'est ça. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Bah oui.
Tiens.
Tiens. Ça parle de des voyages, comme vous les voyez sur le gymnase ici. Ça parle de ça, du thème.
D'accord. Bah, merci beaucoup. Quelqu'un veut prendre le micro ?
Alors, encore un texte. Là, c'est un Léo qui est parti faire un petit tour, qui a 14 ans. Alors, on découvre son texte. Derrière leur ordinateur, ils libèrent leurs sentiments. Ils se cachent derrière un masque pour que personne ne les connaisse ou reconnaisse. Ils écrivent ce qui leur vient à l'esprit. Chaque neurone contient plusieurs clés. Et chaque clé, une expression, un sentiment, une pensée. La colère, la haine, l'amour, la compassion, la tristesse, le regret. Leurs commentaires sont rapides et très efficaces. Parfois, ils sont blessants ou enthousiastes. Il ne suffit que de quelques secondes. Voilà,
c'est tout. Merci.
Ouais. Alors en fait, Léo, il avait effectivement des images qui suggéraient tout cet univers numérique avec, on voit une personne qui regarde son écran, puis sa souris, c'est une tête d'homme. Donc en fait, une image assez énigmatique. Voilà.
Bah, merci beaucoup.
Alors bonjour, moi je m'appelle Ophélie. Et du coup, j'ai tiré deux cartes, une bougie et une boussole. Et j'ai essayé de faire quelque chose avec mes moyens. Donc un soir dans le noir, alors que mes espoirs sont à terre, je me regarde dans le miroir. Il se marque à ma beauté s'est un peu barrée avec les années. À coups de coups de destinée, mon esprit se dissocie pour planer loin de cette cruelle réalité. La vie se consume aussi vite qu'une bougie de cire. Il faut garder son cap sous peine de perdre le nord. Alors je m'endors, armée, réconfortée, des souvenirs, des moments de vie partagés avec mes frères et sœurs de galère. Soumis au même régime, le temps passe et laisse des traces, telles des troubadours de l'existence, chantant une air, une petite comptine légendaire qui nous indiffère mais qui fédère.
Merci Ophélie. Ah bah c'était génial, c'était des très beaux textes. Ouais. On va discuter un petit peu du thème de l'exil. Et puis j'aimerais justement vous demander un petit peu à tous autour de la table, qu'est-ce que représente pour vous le mot exil en fait ? Vas-y, dis la première chose qui te passe par la tête.
C'est par exemple de quitter un pays et aller dans un autre peut-être.
Ouais, ok. Merci.
Bah pour moi, ça me fait penser rien parce que c'est ma première fois pour attendre ces mots du coup. Je sais pas, c'est rien du tout, j'ai aucune idée.
Pour moi, l'exil, ça peut être plein de choses de différentes parce qu'on peut être exilé de son pays, exilé de sa famille, exilé de soi-même parce qu'on ne se retrouve pas forcément dans les critères que la société nous impose, exilé dans son cœur ou dans son âme. Donc je pense que toute personne qui a connu la solitude et le manque de chaleur humaine est un exilé, tout simplement. Donc c'est important qu'on a dans sa porte du respect et de l'amour entre nous, parce qu'on est tous l'exilé de quelqu'un ou d'un endroit. Il y a des endroits qu'on ne retrouve pas forcément, de la famille qu'on n'a plus. Et je pense que cette peine, elle est universelle et elle peut aussi fédérer et faire en sorte qu'on se retrouve entre êtres humains et à se apporter un peu de chaleur. Et stop à l'exil, justement.
Donc Myriam, pour moi l'exil, il est une fois qu'on est exilé, c'est à vie en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un pays, on te fait comprendre que tu es étranger, en permanence. Quand tu retournes dans ton pays natal des années après, eh bien, on te dit aussi que tu es une étrangère puisque tu as acquis une culture occidentale. Si bien que moi j'ai ressenti le fait de me sentir étrangère partout en fait. Mais le sentiment, il est assez bizarre, c'est-à-dire que j'ai la chance, entre guillemets, pas être englué dans une identité fermée. C'est ma France, c'est chez moi, c'est mon territoire. Moi, ça ne me parle pas du tout. Dans le sens où tu te sens chez toi, partout et nulle part. Il y a les deux sentiments mélangés, en fait. Et ce qui est fondamental, eh bien, j'ai vraiment envie de pointer là-dessus, c'est l'accueil inconditionnel de l'autre.
Alors, l'exil, pour moi, c'est un déracinement, avant tout. Une perte d'identité, du fait d'un accueil, des fois, qui est... Ou en tout cas d'un manque de reconnaissance d'une personne. Voilà, c'est un sujet qui est complexe. Et puis, enfin, voilà, il y a des personnes qui en ont beaucoup mieux parlé que moi, donc je ne peux rien rajouter. Je crois qu'il y avait des personnes qui étaient là pour en faire une très belle définition.
Bonjour, moi c'est Apollinaire. Pour moi, l'exil, c'est le fait de ne pas... de quitter un coin où de quitter un lieu où on pourrait se dire chez soi et se rendre dans un autre lieu, soit par contrainte ou juste l'envie, quoi, mais en général par contrainte. Et comme Ophélie le disait tout à l'heure, le simple fait d'être dans sa bulle, c'est être aussi en exil, quoi. Donc les îles au sens large, c'est un peu ça. Et dans le monde entier, on voit les populations qui se déplacent, soit à cause de la guerre, soit à cause de violences ou plein de choses, mais pour aller trouver mieux ailleurs. Voilà. Donc c'est un peu ça l'exil, parce que nous les êtres humains, on est toujours en recherche de bonheur, de bien-être et tout. Et quand on ne se sent pas bien quelque part, on se déplace d'un point A à un point B. Bah, pour moi, c'est ça l'exil, en fait.
Merci, Apollinaire. Mais on est d'accord que personne ne s'exile par plaisir et que la moindre des choses, ce serait d'accueillir les personnes du mieux qu'on le peut, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as des anecdotes, toi ? Enfin, tu n'as jamais eu de soucis, tout s'est bien passé, quoi. Tu as des anecdotes, même si c'est des bonnes anecdotes, mais tu as des anecdotes depuis que tu es arrivé ?
Bon... Par rapport à l'exil ?
Ouais.
Ouais, j'ai trouvé des personnes super sympas, en général. Et bon, moi, je suis quelqu'un de vraiment ouvert à tout le monde. Et j'ai eu la chance de tomber sur des gens vraiment bien, super sympas et qui m'ont accueilli les bras ouverts. Et comme tout le monde aussi. Hein. Et moi, j'aime saluer les gens, en fait. La première remarque que j'ai faite en France ici, c'est que parfois, il y a des gens, tu leur dis bonjour, ils ne répondent pas. Après, j'ai compris que voilà, c'est parce que c'est la culture aussi. On ne parle pas forcément à des inconnus. Même des Blancs, il y a d'autres qui ne répondent pas du tout. Et du coup, j'ai compris que c'est comme ça que bon, certaines personnes sont. Par contre, il y a certaines personnes, même tu leur dis bonjour. J'ai fait un calcul vite fait, tu vois. J'ai dit bonjour à 10 personnes, je vais voir combien me répondent. Et du coup, j'ai vu, il y a 8 personnes qui m'ont répondu, il y a 2 personnes qui ne m'ont pas répondu. J'ai dit, bah ouais, c'est déjà pas mal. Et un peu partout, ça va être comme ça aussi, ouais. Quoi. Même dans mon pays aussi, il y a des gens aussi que je vais saluer qui ne vont pas répondre parce que voilà. Ça, peut-être le mec qui s'est réveillé d'un mauvais poil. Et il a eu plein de soucis dans la tête, il est énervé contre tout le monde et voilà. Et en gros, il n'est pas bien et lui dit bonjour comme ça. Il n'a même pas envie de te sentir, quoi. Donc, vas-y, j'ai d'autres choses à faire, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment eu d'expérience particulière. Je suis quand même chanceux, quoi. Par rapport à peut-être d'autres personnes qui ont vécu des expériences peut-être plus difficiles. Mais ouais, c'est un peu ça.
Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager une expérience, Myriam ? Est-ce que tu veux parler par rapport à ça ?
Ah, une anecdote quand même qui m'avait beaucoup touchée, c'est parce que donc, j'ai vécu à Saint-Denis dans le 93 pendant une dizaine d'années et j'étais ce qu'on appelle éduc de rue. Et j'avais mes grands qui me disaient, alors moi qui suis d'origine palestinienne, les bras sont grands ouverts. Vive la Palestine, ouais les juifs ceci, ouais les juifs cela. Et je leur dis au bout d'un moment, mais je dis, mais est-ce que vous avez déjà discuté avec un juif? Parce que ça veut rien dire. Vous parlez de qui? Des séfarades, des ashkénazes, des Neturei Karta, il y a plein de groupes. Et j'ai rencontré Amit, qui est un juif israélien, qui a une association avec des Palestiniens et des juifs en Israël. Et je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord de venir discuter avec les jeunes dans la cité? Il est venu. Donc ils ont pu poser plein de questions, même naïves. Et tout a été démystifié, dédramatisé. On revenait vers une réalité concrète, encore une fois de plus, qui sauve, c'est la rencontre. Et l'échange a été d'une richesse extraordinaire. Et vraiment, quoi, c'est pareil pour les Roms. En général, tout le monde est d'accord, on déteste les Tziganes. Là, on est tous copains pour les détester. Tu leur demandes, est-ce que vous avez déjà discuté avec des Roms? Jamais. Et moi, j'accompagnais des enfants Roms. Et pareil, j'ai emmené un groupe de 5 jeunes qui n'arrêtaient pas de les critiquer. Ben, j'y venais avec moi. Donc, c'était organisé avec les Roms, bien sûr, hein, en amont. On a été accueillis à manger. Les Tziganes ont sorti leurs instruments de musique. C'était hyper émouvant. Et c'est après, à la fin de la soirée, mes jeunes qui disaient « Mais Myriam, il faut faire quelque chose pour eux. Ils vivent dans des conditions, dans des cabanes. » Alors que moi, déjà, je militais pour eux. Vous voyez, la rencontre fait que mes préjugés, les stéréotypes, ça tombe. Et c'est pour ça. Voilà. Donc je dis que c'est un mot fondamental.
Merci Myriam. Une autre question alors. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans l'accueil des exilés aujourd'hui en France? Qu'est-ce qu'il y a à faire qu'on ne fait pas et qui pourrait améliorer leur venue ici? Concrètement, quoi. Parce que bon, il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Vas-y.
Je sais pas, en entendant ta question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à ce que disait Myriam précédemment, je pense que c'est justement peut-être favoriser davantage d'occasions de rencontres, justement, oui. Pour que tout le monde puisse se découvrir, se connaître et faire tomber en effet les a priori, les barrières. Et peut-être que déjà ça faciliterait peut-être plus de choses, de générosité aussi, des gens qui sont dans un pays déjà installé, etc. Et qui ont des peurs parfois absurdes. Mais, et peut-être que ça engagerait plus de générosité. Ouais, je ne sais pas, c'est la première idée qui me vient à l'esprit. C'est peut-être un peu naïf.
Non, mais je suis d'accord avec ça aussi. Ouais.
Mais,
Myriam,
je voulais ajouter aussi et avoir gardé toujours un esprit critique en écoutant ou en lisant les grands médias. Mais vraiment, parce que c'est une propagande qui souhaite avant tout qu'on soit divisé. Évidemment, eux, vous inquiétez pas, entre puissants, ils ne sont pas divisés. Mais un peuple qui a peur, un peuple qui est divisé, c'est génial pour le dominer, l'emmener où je souhaite l'emmener. C'est absolument extraordinaire parce que c'est complètement infondé. Du style, à savoir que les personnes immigrées rapportent plus qu'en France qu'elles ne coûtent. Que les choses soient vraiment très claires. La France est le pays d'Europe occidentale qui accueille le moins d'immigrés. Donnez-moi un pourcentage, est-ce que vous avez une idée?
Aucune.
En pourcentage, 0,7%. Vous voyez, il faut vraiment être très clair là-dessus. C'est la troisième puissance économique du monde. C'est un pays richissime, par contre, qui aime bien se servir sur le continent africain pour piller les matières premières. Il n'y a pas de problème. Et là, à nous d'être solidaires, à nous de ne pas avaler de telles ignominies. Vraiment.
Merci Myriam.
Alors, juste une idée que je trouve sympa et que j'ai envie de partager, c'est l'idée du repas et de manger ensemble. Parce que je trouve qu'au travers du culinaire, en fait, on découvre des cultures aussi. Et voilà, donc on s'apprécie en partageant nos cultures. Et puis le plaisir de manger, c'est aussi c'est un moment privilégié où on apprend à se connaître et à se réunir. Voilà, donc j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit à la fin d'année sur une activité sportive avec Léo et un des copains, un nouveau copain qui était là, qui fait du karaté avec lui. Et en fait, il avait apporté un super bon gâteau. Et on avait tous apporté un super bon gâteau, quoi. Mais bon, alors le sien était vraiment particulièrement délicieux, quoi. Et on s'est tous regardés en se disant, mais oh, qu'est-ce qui a fait cet excellent gâteau? Alors là, tout le monde, du coup, c'était le... il avait remporté un succès incroyable parce qu'on lui posait plein de questions. Et voilà, qu'est-ce que tu as mis comme ingrédient? Voilà, donc il y a tout d'un coup un intérêt. Et puis aussi, c'est ça, c'est des fois une timidité, tout simplement. On n'est pas forcément... voilà, c'est quand on ne connaît pas, c'est même peu importe qu'on ait de culture ou pas étrangère, mais c'est aussi aller vers l'autre, tout simplement. On peut se sentir aussi étranger en étant du même pays, quoi. Mmh. Donc là, être étranger, c'est quelque chose qui peut être au sein même de son propre, sur son propre territoire. Donc voilà, donc l'idée du partage au travers de la culture du culinaire, je trouve que c'est aussi une super idée. Et pouvoir trouver des occasions de créer des événements autour de ça, je trouve que ça serait une excellente idée.
Je suis d'accord. Vas-y.
Moi, je prends d'abord un niveau individuel. Par exemple, si je reçois un pote, un ami, par exemple, qui me dit, bon, j'ai eu des soucis à la maison. Soit ma femme m'a foutu à la porte ou je sais pas, j'ai des soucis de logement et tout, si je l'accueille chez moi par exemple sous mon toit, la première des choses c'est d'abord lui donner à manger et ensuite vas-y prends un bain, mets-toi à l'aise quoi, fais comme chez toi et après normalement ça c'est vraiment à un niveau individuel quoi et après on essaie d'en discuter de comment est-ce qu'il va s'en sortir et voir un peu. Mais au niveau d'un État, par exemple, accueillir des étrangers sur son sol et tout, bon, c'est une population. Et en général, s'ils viennent, il faut leur donner le minimum d'abord. Je me dis un bon accueil et ensuite les aider peut-être à s'insérer s'ils veulent rester longtemps ou pour un exilé s'il doit retourner ou lui poser quelques questions, s'il compte rester combien de temps. Et s'il compte rester vraiment et s'installer là, l'aider à s'insérer socialement, avoir un boulot et tout. Et en gros, l'aider, l'accompagner à pouvoir avoir une certaine stabilité sociale. Un peu ça. Mmh. C'est un peu ça, quoi. Je ne sais pas comment le dire... avec un français beaucoup plus... voilà. Mais c'est un peu... En gros, c'est ça l'idée.
Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as des questions par rapport à l'exil? Ouais.
Savoir ce qui est bien de faire ou de ce qui n'est pas bien de faire. Je pense que déjà, il faut se mettre à la place des personnes concernées. Mais on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, on ne connaît pas grand-chose des uns et des autres. On vit dans un monde où on est un petit peu derrière nos écrans et on ne cherche pas à connaître l'autre, à savoir quelles sont ses aspirations de vie, comme disait Apollinaire, à apporter un certain stabilité parce que justement, dans les pays où on a quand même la possibilité d'aider, personne ne devrait à mendier à un repas ou un peu de chaleur parce que personne n'a à prostituer sa dignité en fait. Je pense qu'on doit le droit fondamental d'être un être humain et d'être avant tout considéré, je pense. Et on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui vit telle ou telle situation, mais déjà de vouloir faire connaissance, de vouloir relier les uns aux autres, d'avoir cette envie de comprendre et peut-être de montrer aux autres, voilà ce dont vous avez peur, bah, c'est ton voisin, il est fait de chair et d'os, il pleure des larmes comme toi, et je pense qu'on a la même peine, on a une famille, on est tout à chacun, je pense qu'on a les mêmes choses qui dans le cœur, c'est juste qu'on se méconnaît, et il serait peut-être temps aussi d'aller à la rencontre de chaque personne, et d'essayer de donner la chance aussi, au lieu de partir directement en se disant non, ça ne va pas le faire, il va y avoir des abus, etc. Je pense qu'on peut donner une chance à tout le monde. On a fait la Constitution des droits de l'homme, l'habeas corpus, ben, il serait peut-être temps de l'appliquer.
Et j'ai envie de dire, je continuerai toujours à tendre un café et dire à l'autre, tu n'es pas moi, tu ne me ressembles pas. Tu ne feras pas ce que j'aimerais que tu fasses. Tu es libre et opaque, comme je peux l'être à tes yeux. Et je t'offre ceci de grand cœur.
Merci Myriam. Est-ce que vous avez un souvenir avec une personne que vous avez rencontrée, un exilé qui était arrivé en France, une rencontre, une belle rencontre?
Bah, je vais garder le micro parce que je vois que ça, j'ai un ami, moi, qui quelqu'un que j'apprécie énormément, ouais. Qui a été là pour moi parce que je vis un petit peu dans une situation un peu précaire. C'est une personne qui n'a pas de papier. Ouais. Il travaille, c'est compliqué. Et la chose qui a toujours fait attention, et ça rejoint un peu ce que disait Apollinaire, est-ce que tu as besoin d'eau? Est-ce que tu as besoin d'un repas? Est-ce que tu as besoin de prendre une douche? Des fondamentaux qu'on oublie souvent parce qu'on se dit oui, mais non, c'est de la dignité, c'est de l'humain. Proposer un repas, proposer une pause dans cette vie qui est des fois dure et où tout va très vite. Et cette personne-là a toujours fait attention à moi, que je ne manque de rien, alors que lui-même était dans une situation très compliquée au final. C'est quelqu'un qui travaille depuis 15 ans, qui n'est pas reconnu, parce que les lois qui font notre pays, malheureusement, ne reconnaissent pas ces gens-là qui travaillent, qui aident les gens qui ont cœur à venir ici et créer quelque chose pour... sur le long terme, on les laisse seuls. Les lois qui, des fois, protègent les gens sont des prisons pour d'autres. Même sur les enfants, les choses comme ça, on a des lois qui peuvent protéger, mais qui peuvent enfermer aussi. Il serait peut-être temps aussi d'ouvrir des portes. Je dis pas que... Voilà, mais faire un peu de cas par cas. Il y a des gens qui méritent vraiment d'avoir... qu'on les aide, qu'on les écoute, et puis même qu'on... qu'on comprenne leur existence aussi, que c'est pas toujours facile de mener plusieurs combats. On peut pas toujours être au travail, être dans une précarité, avoir des problèmes comme ça sur la tête, et en plus être disponible pour venir par exemple dans ce genre d'événement ou dans des associations. Il y a des gens comme ça qui malheureusement sont exclus de ça parce qu'ils ont trop de choses à faire et qu'on leur donne pas la possibilité d'avoir cette petite bulle d'oxygène. Donc à un moment donné, c'est peut-être à nous aussi de créer ce moment-là, de créer cette petite bulle d'oxygène à ces gens-là, d'aller au contact de ces personnes-là qui ne peuvent pas forcément venir et sans jugement avec beaucoup d'indulgence parce qu'au final ils ont des histoires de vie, des choses fortes. Enfin, il a traversé tout son pays pour venir ici, il se plaint jamais, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire et qui est tellement bienveillant par rapport. Donc voilà, j'ai cet ami en tête parce que je pense que son combat est à souligner et il voudrait juste vivre en paix, dans le bonheur en fait et en harmonie. On lui laisse pas ce droit là. Je trouve ça honteux, sachant que c'est quelqu'un qui est travailleur, qui veut juste aider sa famille. Il envoie beaucoup d'argent à sa famille pour l'aider parce que là-bas, c'est dur. Il est méritant. Et je pense que c'est des gens qu'on devrait plus accompagner. Ils ont la crainte qu'on les dénonce. Et je pense qu'il faudrait des structures où ils puissent être en toute confiance et en toute intimité, pouvoir raconter un petit peu leurs soucis parce qu'on ne peut pas se mettre à leur place. On n'a pas cette vision-là. Et je pense que c'est aussi important que ce soit les premiers concernés aussi qui ont le droit de s'exprimer. C'est le but de ces ateliers-là. Et je pense que même quelques personnes qui auront pu s'exprimer, tout à chacun, tout le monde était important, je pense, aujourd'hui. Ça a permis aussi l'échange, ça permet aussi chacun d'entre nous, après, de faire un travail aussi dans nos vies à nous et d'essayer à chaque fois de tendre la main, je pense, c'est important. Donc, qu'on reste un petit peu humain et qu'on s'enlève un petit peu toutes ces barrières, le pourquoi, non, je te connais pas, t'es étranger, ah, tu es bizarre. Et quand je dis étranger, c'est pas forcément la couleur de peau, moi, je pense qu'il y a une marginalisation des gens. Dès qu'on ne rentre pas dans la norme, dès qu'on est hors norme, dès qu'on est un petit peu différent, dès qu'on n'est pas dans les standings, on est rejeté par la masse en fait, et c'est ça qui est dommage parce que dans ces personnes-là, il y a des gens qui ont des dons, qui sont artistiques, qui ont plein de choses à échanger, à apporter à ce monde, etc. Donc il faut laisser la place à ces gens-là pour nous aider à construire un monde meilleur pour qu'on laissera aussi aux générations futures, un monde de paix et pas de guerre. Et ça peut paraître bête de dire des choses comme ça, mais je pense qu'on a besoin de bienveillance à l'heure d'aujourd'hui. On en a marre un peu des climats anxiogènes avec tout ce qui se passe. Je pense que les gens, ils ont besoin d'être réconfortés et de voir qu'il y a encore des gens qui ont bon cœur. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner d'eux-mêmes pour partager. Donc moi, je reste dans la bienveillance de tout ça. Donc, mais j'espère qu'on continuera sur ce chemin-là pour aider un maximum de monde.
Donc moi, je suis bénévole au CADA de béton, CADA La Vallée, depuis son ouverture. J'accompagne régulièrement des gens à l'OFPRA, à la CNDA, ailleurs. Et à titre personnel, avec ma famille, nous parrainons un jeune mineur isolé qui est maintenant majeur. Et nous l'avons rencontré, il avait 16 ans, il va avoir 21 ans en janvier. Nous avons nous-mêmes deux filles de 17 et 22 ans. Il avait chez nous passé des tests pour entrer dans une école supérieure après le baccalauréat. Il a été admis, mais c'était en apprentissage. Et comme il n'avait pas de papier, l'employeur ne l'a pas gardé. Donc pendant un an, il est resté enfermé dans un petit appartement. Et il a partagé avec nos filles son expérience de vie qui est douloureuse puisqu'il n'est pas venu en France uniquement pour quitter son pays, mais parce qu'il vivait très mal chez lui. Et voilà, juste, je voulais partager ça avec nos filles et pour nos filles, ça a été une expérience fondamentale. Et c'est mon petit garçon. Voilà. Et c'est le grand frère de mes sœurs, de mes filles.
Merci beaucoup.
Bah, écoutez, j'ai envie de partager avec vous une expérience un peu similaire. Donc j'ai travaillé, moi j'ai vécu à Saint-Denis dans le 93. J'étais ce qu'on appelle éduc de rue. Et j'ai rencontré Junior qui dormait sur des cartons à la rue. Mon petit môme, il avait 16 ans, il avait ses papiers. Il venait de Congo, Kinshasa, famille massacrée. Voilà, c'était pareil, un mineur isolé. Donc plusieurs fois, je l'ai rencontré sur le quartier. Et une fois que tu rentres chez toi le soir, tu dis « qu'est-ce qui m'empêche de l'accueillir ?» Donc un jour, je lui dis « viens à la maison ». Donc il est venu à l'appartement. Et donc je fais une demande de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance. Et devinez ce que j'ai comme retour de courrier. Expertise de bilan osseux. Qui équivaut en gros à 22 mois, 2 ans d'écart. D'accord ? C'est très important parce que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne refusent ce test qui n'est absolument pas fiable. Il est bien sûr déclaré majeur au QTF. J'avais une chance inouïe qu'à Paris, tu as l'association qui s'appelle le Gisti. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une association d'avocats qui milite pour les personnes qui n'ont pas de papier. Et donc j'expose la situation et ils m'ont dit « Vous entraînez Junior à parler bien français, qu'il y a un projet, donc il voulait faire menuisier comme le métier qu'exerçait son papa. » Un gamin d'une sagesse, d'une droiture extraordinaire. Et moi, j'avais même dit à Junior, je l'avoue, je m'attacherai à l'aéroport avec toi. Je ne te laisserai pas partir. Et donc, les mois passent, on est passé au tribunal. L'avocat a fait une super plaidoirie, vraiment. Et Junior a été pris en charge aux orphelins apprentis d'Auteuil. Il a fait son CAP de menuisier. Et pareil, je vivais avec mon fils, qui à l'époque avait 12 ans, et je trouve que c'est une belle expérience aussi pour nos enfants, de partage, de solidarité, de découverte de l'autre, de l'altérité, et ça fait grandir, ça fait énormément grandir, et devenir humain, parce que je trouve qu'on l'est si peu au quotidien. Mmh. Voilà, offrons des expériences qui nous permettent d'être plus humains.
Le département cherche des familles de parrainage. Je ne parle pas de familles d'accueil, mais des familles de parrainage. Si on veut devenir famille d'accueil, c'est encore mieux. Mais un parrainage, accueillir le jeune pendant les vacances, en fait l'accueillir quand il en a besoin, le soutenir quand il en a besoin, partager des moments avec lui dans notre famille, des moments conviviaux. Faut demander au conseil départemental.
Excusez-moi, je voulais savoir, moi, je voulais avoir des nouvelles, du coup, comment ça se passait pour la suite pour lui. Vous m'avez touché avec votre histoire et oui. J'aimerais savoir s'il y avait eu un happy end, quoi, comme on dit chez nous.
Pas encore.
Non, pas encore.
Pas tout à fait. Il a réussi à obtenir la carte famille.
Ouais, d'accord.
Donc je crois qu'elle est valide 6 mois dans un premier temps. Eh bien, c'est la course ensuite pour renouveler parce que c'est très difficile d'avoir des rendez-vous auprès de la préfecture.
D'accord.
Il ne doit surtout pas rater le délai pour une reconduite d'un an, possiblement de 4 ans.
Il y aura toujours cette épée Damoclès au-dessus de sa tête. Il n'y a pas un moment donné où on va lui laisser la chance d'exister un petit peu en paix et de pouvoir s'épanouir tranquillement, quoi.
Nous avons pensé à l'adoption. Ça n'est pas possible puisque il a toujours son papa dans son pays. Et il a quand même pu cette année être réintégré à l'école, donc en bac plus 2.
Super.
Il a trouvé un employeur pour sa première année de formation. Malheureusement, ça ne correspond pas aux critères de l'apprentissage. Donc, et puis, il a été un peu... On a profité de lui dans l'entreprise. Donc, il vient de rompre le contrat en accord avec l'école. C'est aussi un jeune qui est très sensé, très mature, qui m'apprend beaucoup sur la vie, en fait. Du haut de ses 21 ans.
Vous nous dites en fait en gros que partout où cet enfant fait des... parce qu'à 18 ans pour moi on reste encore un enfant, il fait des démarches et partout où il va, on profite de lui, on profite de sa naïveté qu'il doit combattre à chaque fois pour justifier de vouloir juste vivre comme vous et moi en fait.
Il est extrêmement méfiant.
Oui.
En fait, cette attitude de la France envers lui l'a rendu méfiant envers.
Déviance un peu voilà, par rapport aux gens, bah oui.
Il a même cru à un moment qu'on allait lui faire qu'on allait lui faire renier sa religion.
Oui, parce que en fait, malheureusement, c'est ça, c'est typiquement par chez nous français. On veut bien que tu aies certaines choses, mais il faut que tu nous ressembles. Il faut alors que normalement, ils devraient pouvoir exister avec leur envie, leur identité et leur façon d'être, sans avoir à renier tout ça. En fait, il faut de la diversité, il faut ce côté multiculturel, universel. Mais donc, ce sera un combat pour ce jeune homme toute sa vie pour. S'il veut s'intégrer, en gros, c'est compliqué, ce qui n'est pas normal, normalement.
Alors, par exemple, il aurait aimé venir manifester dernièrement, mais il savait que si quelque chose se passait mal, comme il avait la peau noire, il aurait été le premier sur lequel les flics auraient potentiellement tapé. Alors, juste quand même, là, l'école le garde, mais il doit absolument trouver un employeur, ce qui n'est pas le cas pour la deuxième année. Il a rencontré il y a quelques mois une jeune fille. J'attends qu'il nous la présente. Donc, il m'a dit qu'il n'irait pas trop vite. Et dernièrement, il m'a dit qu'il aimerait nous emmener dans son pays. Et ça, ça...
Et quel pays ?
Voilà. Il est de Guinée-Conakry.
D'accord.
Donc, pour l'instant, il ne peut pas y retourner. Tant qu'il n'a pas de papier, il ne peut pas y retourner. Mais ce serait pour nous un grand projet.
Ce serait magnifique.
Magnifique. Il voudrait nous faire...
Ce serait, je pense, un de ses plus beaux cadeaux, ouais. Si vous pouviez l'accompagner.
On en a très envie, mais il doit d'abord être régularisé.
Et j'ai envie de vous dire, le fait de partager avec lui ce voyage permet aussi de sortir de sa zone de confort et de voir ce que ça fait de se sentir minoritaire. Pour vous dire, moi, je suis allée en Afrique, notamment au Sénégal, au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali. Et en y allant plusieurs fois, au même endroit, on dépasse le sourire... Voilà. Et un jour, c'est la dernière fois où je suis allée en Afrique, parce qu'au départ, avec mes idéaux, je voulais rentrer dans une ONG. Enfin, bon, c'est pareil, ça demanderait un débat sur le fonctionnement des ONG. Et on buvait le thé, donc il y a le fameux rituel des 3 thés. Et un monsieur, donc j'étais toute seule d'origine française, entre guillemets, parce que voilà, bon, c'est plus compliqué que ça. Et il me dit, mais vous, là, en France, vous allez nous laisser mourir. C'est-à-dire, bah, une fois que vous aurez pillé nos richesses, vous allez nous laisser, quoi. Et je me suis sentie très, 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 très mal. Parce que j'avais pas envie de jouer l'angélique en disant, mais non, soyons honnêtes. On vous laisse mourir dans la Méditerranée sans problème toutes les semaines. On est quand même à 3000 morts par an. Et je viens d'apprendre, je ne sais pas si vous êtes au courant, que SOS Méditerranée, quand ils vont recueillir des gens naufragés, on leur impose d'amarrer au port le plus loin. Et si sur le chemin où ils emmènent les gens qu'ils ont sauvés en allant au port, imposé bien sûr par l'État, et qu'ils croisent un bateau et des gens qui sont en train de se noyer, ils n'ont pas le droit de les sauver. Entendez-moi bien, c'est passé dans la loi. C'est scandaleux. Voilà où on en est quand même aujourd'hui. Voilà. Et par rapport à la religion, on parle aujourd'hui d'islamo-gauchisme. Les mots peuvent être un poison. Et j'en parle à la radio parce que c'est très dangereux. C'est le glissement qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça se fait tranquillement. Mais on ne va pas vers des beaux jours si nous, on est naïfs, quoi.
Merci Myriam. Tu voulais dire un truc ?
Moi, je voulais vous remercier, en tout cas, madame, d'être venue apporter ce témoignage-là, parce qu'on n'entend pas tous les jours, surtout de... Voilà, il n'y a pas de prise de position, ni politisée ou quoi que ce soit. Vous êtes venue raconter l'histoire d'un enfant que vous avez eu dans votre famille, que vous aimez, et qui vous aime en retour. Et comme je dis, moi, des fois, ce n'est pas forcément un pays ou quoi que ce soit. On peut être très bien dans la même situation, dans d'autres... Et c'est important que vous veniez poser des mots là-dessus, je pense, et dénoncer un petit peu ce qui se passe. Parce que s'il y avait plus de personnes qui étaient au courant de comment ça se passe sur un enfant, par exemple, qui aussi ne peut pas retourner chez lui, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rester là, eh ben, je pense que c'est important d'ouvrir les yeux et la conscience des gens, de les éveiller par rapport à ça. Et je vous remercie énormément de votre témoignage, parce que même si on... Voilà, on ne sait pas trop si on a beaucoup d'écoute, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va rester et vous avez apporté voilà, une autre lumière sur tout ça. Et on entend bien hein, le discours d'une maman, quelque part, qui s'inquiète pour son enfant, son futur, son avenir. Je lui souhaite beaucoup d'amour, en tout cas, et beaucoup de belles choses. Et j'espère qu'un jour, on saura prendre soin de toutes ces personnes qui sont en souffrance et on promet de belles choses, la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, bah, qu'on en soit digne et à la hauteur et qu'on respecte un petit peu tous ces enfants perdus, quoi.
En tout cas, cette rencontre a l'air d'avoir changé tout, bah, la vie de tout le monde. Ça a été bénéfique pour tout le monde, aussi bien pour Adama que pour vous et votre fille. Donc, c'est, je trouve, ouais. Ouais, merci beaucoup. Et donc, on tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à cet échange pour leur témoignage, leur création et... Et surtout aussi les associations qui ont co-organisé tout ça. Alors je vais essayer de ne pas en oublier une. Déjà merci à la basse-cour de nous accueillir. Et donc merci à l'association Codico, à Benenova, France Bénévolat, La Cloche, J'accueille, Espéro Bretagne, d'ici et d'ailleurs. Le centre de formation des musiciens intervenants. MIR, la Maison Internationale de Rennes. La MRAP, l'Union des associations interculturelles de Rennes, Tous pour la Syrie, Emmaüs Terre, Artémon, Famille de France, l'Ordre de Malte, un toit c'est un droit, Société de Saint-Vincent-de-Pau et le Jardin des Mille Pas. Voilà, et pour se quitter, Myriam nous avait écrit un petit texte que je vais la laisser vous lire.
Oui, qui que tu sois, tu as le droit d'être là. Notre devoir est de t'accueillir, telle une fleur qui veut fleurir. Dans beaucoup de pays, je t'ai réduit à l'esclavage, en me revendiquant être le sage. Puis, je t'ai colonisé pour mieux t'exploiter, en t'imposant la civilisation, mon savoir, ma culture. Mon impérialisme n'a été qu'injure. Viens si tu veux, viens si tu peux. Tu fuis la misère, la guerre, la mort. C'est toi qui es fort, tu sauves ta dignité. Moi, j'ai la propriété. Mais je suis dans une cage dorée qui n'est que ruine de l'esprit si en ouvrant la porte de ma vie, absente est l'altérité. Cassons les murs, fabriquons des ponts. L'amour est la solution. Indestructibles nos liens seront. Nous appartenons à la terre. Nus, nous naissons. Nus, nous partirons. On est né pour vivre. Alors, je dis non au séparatisme. Oui à la diversité intellectuelle. Oui à la diversité culturelle. Oui à la diversité religieuse, oui à la diversité d'origine. Voici la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nous devons être les combattants de l'égalité du droit, d'avoir des droits. Retrouvons-nous au même banquet, d'où que l'on vienne.